quand on travaillait avec les bébés, ça me faisait penser leur délimitation de l'espace quand eux ils jouent. Et si on ne bouge pas le matériel qui est mis en place, je pense qu'on peut tout à fait retrouver à la fin d'une séance les différentes strates des endroits jusqu'à où ils vont. Et je me posais la question parce que j'ai beaucoup de mamans qui déconstruisent ces espaces-là, c'est-à-dire notamment des mamans qui rangent beaucoup, qui empêchent en permanence au bébé de construire cet espace-là et de construire sa limite très matériellement par les jouets qu'ils lancent et qui font un périmètre de sécurité selon les espaces que Chantal a décrits. Et que finalement, c'est des bébés qui n'ont pas si bien que ça quand ça a été perpétuellement déconstruit et qui sont toujours projetés dans le trou dans un espace non repéré. Voilà, c'était le lien que tu m'avais fait faire.
Merci. Je réponds très très brièvement. Je trouve très important aussi de ne pas uniquement limiter les enfants à un jouet à la fois en leur demandant de l'autorisation, qu'on l'attrape, qu'on range à chaque fois. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit bazar de temps en temps, mais pas trop. On rangera au fur et à mesure, mais pour qu'au moins il y ait des rencontres d'objets. Parce qu'il y a des moments où on identifie les zones, on identifie les objets, on différencie, donc il ne faut pas que les objets se touchent, pas que les espaces se touchent, il faut que rien ne se touche. Mais il y a un moment, quand on a identifié, différencié les espaces, les objets, différentes parties du corps, etc., et bien le but, c'est de faire rencontrer tout ça dans une différenciation qui ne va pas être de la confusion. Donc c'est important que les jouets se rencontrent aussi, potentiellement. Et s'il y a un tout petit bazar de temps en temps, je trouve ça plutôt potentiellement intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il faut que tout soit cloisonné, il n'y a qu'une seule chose qui peut être traitée à la fois. Et puis il y a d'autres moments, et bien en fait, il faut vraiment faire rencontrer les objets, faire rencontrer une activité à une autre, faire rencontrer un espace et un autre. Et ces moments de flexibilité, ben, ça construit justement les liens, en fait.
Je ne savais pas que ça existait.
Oui, parfois, il faut demander l'autorisation sur l'étagère d'attraper un jouet. Et puis, on en prend un autre que si le précédent est rangé. Donc, ça, c'est dommage parce qu'on a vraiment besoin que les objets se rencontrent, que les gens se rencontrent, que les espaces se rencontrent, que le passé et le présent se rencontrent. Et que, voilà.
Je voudrais quand même vous faire remarquer que depuis la publication, grâce à Catherine Saint-Georges, du fait que c'est scientifiquement maintenant, là c'est vraiment evidence-based medicine, que les tout petits bébés répondent à la prosodie, même ceux qui vont devenir autistes, il y a silence antenne sur le sillon temporal supérieur. On ne nous casse plus les pieds là-dessus, parce qu'en fait ils voulaient trouver la cause, et non pas une conséquence. Évidemment, si on n'utilise pas un organe, on finit par laisser l'organe, c'est d'accord. Mais vous en voulez l'origine. Et ça, Catherine Saint-Georges a prouvé que ce n'est pas possible. Voilà.
Oui, bonjour, mon famille, je suis psycho-officielle. Et je voulais vous remercier déjà tous pour vos interventions. Et j'avais pas une question, j'avais juste une remarque à faire par rapport à l'espace moteur et même tous les espaces que vous avez décrits. Qui du coup ont bien réfléchi pour moi, et vous m'avez éclairé, et vous m'avez fait associer sur Édouard Thiot avec la dimension cachée. Voilà, donc merci.
C'est l'adjectif corporel qui me motive à intervenir, évidemment très, très brièvement. Il peut laisser à penser, à un abord un peu superficiel, qu'il n'y a pas d'autre moi corporel que le moi corporel. Et pourtant, dans l'échange banal, quand on dit ça, je ne le ferai pas, ça ne serait pas moi. Ce moi-là n'a rien de corporel, hein, il est spirituel. Alors, je sais que tu pensais à un autre titre, le fond de soi, qui personnellement m'aurait paru préférable parce qu'il domine l'opposition corporelle spirituelle. Tu y pensais à ce titre et je pense que c'est dommage que tu ne l'aies pas finalement.
Alors, c'est pour le prochain.
Thank you. corps, c'est notre soi. Mais en France, on travaille, on n'a pas beaucoup travaillé le soi. Donc on est sans cesse obligé d'utiliser le mot anglais, le self, pour marquer ce fond de soi, justement. Mais le moi, pour moi, est toujours et corporel et psychique. Il n'est jamais purement psychique, le moi. Enfin, je crois vraiment. Le moi corporel, il fallait le travailler parce qu'il était en partie relégué. Il semble que nous ayons tous été conscients étant bébés, parce que je pense que ça, ce développement, si on suit bien les bébés, il nous explique consciemment leur perception de ces constructions. Et les autistes, ils voient. Donc, après, c'est cette conscience de la formation du moi corporel est reléguée au sens de Bion, c'est-à-dire pas refoulée comme quelque chose qui aurait de la culpabilité, etc., mais parce qu'on n'en a plus besoin. C'est intégré dans le moi total, quoi. Donc, je crois qu'on peut continuer. Enfin, notre approfondissement, enfin l'approfondissement que je travaille encore avec tout le monde là, autour de l'autisme, des états graves qui ne sont pas construits sur ce niveau-là, je crois qu'on peut continuer à l'appeler moi corporel. Alors, il y a encore plein de discussions, hein, De Lyon le disait, on a fait une espèce de tableau comme ça, et comme je lui ai dit tout à l'heure, oh là là, on a encore des cases à remplir, hein, et il faut bien en être conscient.
Bon, on va laisser ouvert ce petit débat conjugal. Et
alors, je ne sais pas bien à qui adresser ma question. Marie-Christine, Didier, Geneviève, Chantal, donc une question un peu pour tout le monde. Voilà. Sur la question des origines, Marie-Christine. Je t'ai oublié, toi, mais sur l'origine.
C'était moi qui appelais Marie-Christine.
Marie-Christine Lasnik. Et toi, sur l'origine, là, c'est pas bien sûr. Mais je pensais à qu'est-ce qu'il en serait de l'origine, alors là, de l'origine, Didier, de la stabilité structurelle. Du reste, je vais faire appel à la mémoire de Michel, parce que quand vous avez repris cette magnifique citation de Nesser Bick sur les différentes parties de la personnalité qui n'ont pas de force liante entre elles, qui doivent être reliées par une peau, il me semble qu'il y a dans le texte d'origine de Nesser Bick quelque chose de très important qui est les différentes parties de la personnalité non encore différenciées des parties du corps. Il me semble. Et il y a un moment. Avant, j'étais fascinée parce que vous avez dit, je ne connaissais pas cette histoire de Berthos, que j'ai lu sûrement avant qu'il ait décrit ça, et ces différents espaces du cerveau est connectés à différentes reconnaissances de l'espace. La première étape, entre 10 cm et 70 cm, et le geste que vous faites du petit autiste avec les mains près des yeux, il y a une période qui est avant ça, qui est l'origine de ça, qui est un moment où les parties de la personnalité ne sont pas différenciées des parties du corps, et c'est la période de la vie avant la naissance. Et avant la naissance, il y a cette première expérience, et si on suit, je ne vais pas aller trop longtemps là-dessus, mais si on suit les gens comme Alessandra Piontelli, qui ont travaillé sur la période d'avant la naissance avec des observations, elle dit, il n'y a pas un seul mouvement qu'on fait, donc le corps, je pense aux parties du corps, non différenciées des parties de la personnalité, c'est-à-dire l'activité, le mouvement obligatoirement du corps, qu'on voit très clairement dans les échographies à partir de cette semaine, avec des contacts de la tête, des contacts de la bouche, des activités multiples et organisées, non différenciées des parties du corps, les pieds qui vont toucher la tête, qui vont faire des saltos. Elle dit qu'il n'y a pas un seul mouvement qu'on fera après sa naissance, qu'on n'ait pas fait déjà avant. Alors bon, on pourrait dire que ça va nécessiter un sacré entraînement, et seuls certains d'entre nous pourront y arriver. Je ne fais pas partie du lot. Mais donc, qu'est-ce qu'il en est de l'équipement avec lequel on arrive à la naissance et qui contient déjà une perception de l'espace, une appropriation de l'espace, une reconnaissance des voix, comme l'a montré Suzanne Matello, mais une reconnaissance du contact, de la rythmicité première du contact, c'est une chose sur laquelle moi je suis très fascinée, que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire une rythmicité de quelque chose qu'on peut toucher et avec lequel on peut jouer déjà, mais c'est bon, à perdre le contact. Ça, ça commence à 11 semaines. Ça va se poursuivre ensuite avec le développement sensoriel, avec l'écoute, la voix, les yeux, le regard qui existe aussi. Mais donc on va arriver déjà avec tout ça à la naissance et on peut penser que le problème n'est pas à ce moment-là de trouver une stabilité structurelle, mais de ne pas la perdre, de la poursuivre avec un environnement qui est devenu sans bord, qui est devenu infini et que le risque est de le perdre. Alors j'arrive à la question des objets. Je reviens plus exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'effectivement, les objets, ils vont participer à cette reconnaissance de l'espace. Et Chantal, ce que vous disiez, moi je vois beaucoup, j'ai vu beaucoup de mamans truquer l'espace. Les objets que j'appelle pervers, sont des objets qui truquent l'espace, qui truquent la construction de cette stabilité structurelle. J'aime beaucoup cette expression-là. Et donc, du coup, j'ai vu beaucoup de ces mamans qui, à un enfant qui attrape un objet, subtilement lui en substituer un autre. Voilà. Un effet pervers. Et puis juste, Bernard, tu vas le savoir, moi j'ai un peu oublié, mais il y a eu à l'OBSI, je crois, depuis sa création en 45 jusqu'à sa disparition, je crois qu'il y a eu 2500 enfants. 5000. Bon, d'accord, c'est un autre, pas un seul cas d'autisme. L'OBSI
n'est pas disparu, c'est
un peu bien. D'accord.
Il y a 3 cas d'autisme.
3, alors, d'accord. Alors moi j'en étais restée à l'échange avec un internaute où il n'y avait aucun cas d'autisme. D'accord, 3 cas d'autisme sur 5000 enfants passés à la pouponnière. Vous êtes d'accord qu'on ne fait pas dans la dentelle, on est loin de toute statistique. Alors, de quelle origine s'agit-il et de quel environnement on va fabriquer qui va amener à perdre cette première organisation structurelle avec laquelle, vraisemblablement, les enfants sont arrivés au monde. C'était un peu long, excusez-moi, et un peu tout azimut pour les questions.
Merci,
Régine. Écoutez, je crois qu'on a passé vraiment une formidable journée. Je pense que le moment est venu de remercier encore une fois Geneviève Hall.